C'est des oreilles avec des trous dedans.
C'est ça. C'est des oreilles avec des trous dedans.
Plein de trous.
Présenté par Dédé. Donc,
plein
et Dédé.
D'oreilles.
Voilà, sur Radio Libertaire ou Radio Bazarnum, selon que vous êtes à Paris ou à Caen. Ou alors sur notre site desoreillesavecdestrous.com où on peut écouter toutes les émissions. Voilà.
Oui, vous pouvez tout écouter et il y a même les archives qui sont accessibles.
Et vous pouvez même nous écrire, ce qui vous permettrait par exemple de nous suggérer des thématiques.
Ça, c'est une bonne idée. Parce que
Pensait même à lancer une sorte d'ultimatum. On pensait dire qu'on ferait plus que des frits jusqu'à ce que nos auditeurs nous suggèrent des thématiques.
Ouais.
Je
ne
sais pas si on sera aussi radicaux que ça, mais...
Mais c'est une assez bonne idée de se faire d'avoir des thématiques imposées, en fait.
Bah oui, ce serait vraiment formidable, parce que c'est difficile de trouver des thématiques, et puis le côté contrainte complètement extérieur serait un stimulant, serait assez agréable.
Oui, c'est vrai. J'ai ouï dire, j'ai croisé un copain tout à l'heure qui m'a dit que Dédé Gasquet avait un morceau, qui allait introduire l'émission 378, c'est vrai ou pas?
Exactement.
Oui.
Ouais, ça s'appelle Bird Dance Beat. Bird Dance Beat.
Ah ouais. I'm gonna shake your shoulders and move your feet. Ouais, ça va, c'est pas un truc d'intellectuel, ça va.
Non.
C'est une nouveauté.
C'est une nouveauté de 1962. C'était les Trashmen. Est-ce que tu connais ce groupe?
Non.
Des gays Eugène, non?
Non. Les Trashmen.
Voilà, c'est des précurseurs du garage et évidemment de la surf music. Enfin, ils sont pas précurseurs de la surf music, mais pour le coup du garage.
C'est 62?
62.
Ouais.
Voilà, et donc il y a un de leurs morceaux qui s'appelle Surfing Bird, sorti en 63, je crois, ou peut-être 62, je crois, sur cet album. qui a fini numéro 4 des charts aux États-Unis.
Oh.
Donc c'est quand même des relatives stars. Et ce morceau d'ailleurs figure dans la bande originale du film Full Metal Jacket.
Ah oui. Mmh.
Et il a été utilisé aussi par John Waters. Toujours à la recherche du bon goût. Hein. John Waters, vous connaissez John Waters, le réalisateur?
Ah non.
Crybaby, tout ça, non, ça vous dirait?
Non.
Bon.
Et donc, c'était une thématique Trashman ou...
Ah non, j'ai pas du tout de thématique, c'était juste, j'avais envie de passer un morceau de surf rock débile.
Ah, très bien, formidable.
Bah, c'est réussi, hein.
Tu veux enchaîner les dés ou...
Si tu veux, oui.
Comme tu veux.
Eh ben, c'est pas du surf rock garage débile.
C'est ça qui est bien, ça change.
Alors donc moi je suis toujours dans une humeur plutôt rétrospective et je me penche un peu régulièrement ces temps-ci sur la musique américaine du XXe siècle, parce que c'est un peu une mine et pas forcément très très connue en fait. Et donc je vous amener le dernier mouvement du concerto pour piano de Henry Cowell. Et c'est quand même un truc, alors c'est vraiment ébouriffant. C'est de 1928.
J'ai bien fait de passer avant avec mon groupe de surf rock garage.
Ouais, non, mais c'est très bien. Mais il en faudrait
ça
même.
Ça aurait fait tâche après.
Ouais. Mais non, ça serait pas mal après un autre garage rock. Mais alors Henry Cowell, il était notamment connu pour ce qu'il appelait les tone clusters. Donc, c'est tous les trucs sur le piano avec le bras, les poings. Voilà, donc les paquets de notes.
Agrégats.
Les agrégats, ouais, très bien. Et donc c'est une pièce de 1928. Alors c'est marrant parce que donc c'est pas l'inventeur en fait des clusters. Il paraît que c'est un certain Vladimir Rebikov qui a été ensuite suivi par Charles Ives dans cette technique. Donc c'est pas vraiment l'inventeur, mais quand même son nom était tellement associé à cette technique que paraît-il, selon d'excellentes notes que j'ai trouvées sur un site qui s'appelle AmericanMavericks.com. Donc selon ces notes que j'ai trouvées, Bartok en 1924 aurait demandé la permission à Henry Cowell d'utiliser des clusters dans sa propre musique.
Demander la permission.
Ouais. Carrément. Ouais. c'est marrant, oui, parce que bon, à la limite, il aurait pu ne pas demander. Enfin, c'est comme si on demandait la permission d'écrire des accords majeurs. Enfin, je ne sais pas à qui il faudrait demander, mais... Bartok, avec sa délicatesse habituelle, avait demandé, paraît-il. Et donc, on va écouter le troisième mouvement, qui s'appelle « Counter Rhythm ». Et les deux premiers s'appellent Polyharmony et Tone Cluster. Donc ça suggère un petit peu des études, enfin un côté un peu étude. Donc là, Counter Rhythm.
Alors, soit dit en passant, le premier groupe d'un musicien qu'on a beaucoup écouté récemment, et qui est Fred Friis, qui s'appelle Henry Cow, et qui est nommé...
Ah oui,
qui est nommé,
c'est vrai, oui.
Bien nommé...
Bien sûr, oui, j'y pensais plus.
Par rapport à Henry Cowell.
Et bon, c'est un type, c'est incroyable. Moi, je vais me pencher un peu sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai une copine qui m'a filé un lien vers deux émissions sur une radio australienne consacrée à ce compositeur, que je n'ai pas écouté encore. C'est un type incroyable qui a fait... ce qui s'est notamment beaucoup intéressé aux musiques extra-européennes, qui a fait toute une étude en Allemagne sur des archives d'ethnomusicologie, sur des enregistrements d'archives. de musique du monde entier. Il a fait un tas de trucs. Il a eu énormément d'élèves aux États-Unis.
Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'il est mort ?
1965. Enfin, je m'en souviens pas parce que j'étais pas né, mais ouais, il est mort en 1965. Bah on écoute ça. Alors en plus, c'est une très très belle version. Enfin, je pense qu'il n'y a pas énormément de versions. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un concerto qui a été créé en 1930 et qui n'a jamais été rejoué jusqu'à 1978, où c'est le San Francisco Philharmonie ou Symphonique, je ne sais pas, qui l'a rejoué en 1978 sous la direction de Michael Tilson Thomas. Et là, c'est aussi une version de Michael Tilson Thomas. C'est un disque qui s'appelle American Mavericks, parce que je crois que c'était toute une série en fait, de l'orchestre de San Francisco consacrée à ces compositeurs américains de l'entre-deux-guerres, une période très très foisonnante et d'expérimentation à tout va. Et avec cet esprit, je crois que c'est assez typiquement américain. Beaucoup de compositeurs de cette période n'étaient pas vraiment formés à l'européenne. Je pense qu'il y avait pas mal de côtés assez instinctifs. Et puis beaucoup, sur la côte ouest, d'influence des communautés chinoises ou japonaises. Et, par exemple, Cowell, dans son enfance, il avait vu des opéras chinois. Et ça l'avait profondément marqué. Et voilà. Et donc on écoutera après, plus tard, un autre compositeur, mais un américain. Mais donc écoutons ce final du concerto pour piano d'Henry Cowell, 1928.
Thank you.
Voilà, donc c'était le troisième mouvement du concerto pour piano d'Enrico Auel.
Ça dépote.
Oui, ça dépote.
Ça dépote. Hein.
C'est vraiment étonnant. C'est extraordinaire comme musique. Je trouve que ça fait toujours un peu l'effet d'une bombe encore maintenant. Enfin, quand je l'ai entendu la première fois, là, c'était il n'y a pas très longtemps. Ça... Ouais, ça m'a fait un sacré effet. Et ce disque, donc, je sais pas si je l'ai dit, mais enfin, toutes les interprétations sont enfin exceptionnelles. Et comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de versions, mais là, c'est le jeu, enfin, tout ce disque, t'as pas besoin de comparer pour savoir que c'est hyper bien joué. Enfin, je trouve que, enfin, vous allez voir. En plus, tout à l'heure, on écoutera d'autres choses. C'est vraiment, je trouve ça magnifique, quoi, l'orchestre.
Bon, ça me donne envie d'écouter la suite, mais enfin bon, je vais t'interrompre enfin, quand même avec autre chose.
Ouais.
Vous avez remarqué que j'aimais beaucoup un musicien québécois qui s'appelle René Lucier. Après avoir passé un petit extrait d'un ancien disque à lui il y a quelques semaines. C'était même il y a 2 semaines, je crois.
Ouais.
Autour
du bloc.
Autour du bloc, exactement. Ouais. J'ai acheté son dernier disque qui s'appelle Toucher une âme, qui est encore un disque de chansons, en fait, comme Le Prix du Bonheur qu'il avait sorti il y a presque 10 ans maintenant. Où c'était des chansons un peu assez légères. Je vous avais fait écouter quelques trucs il y a longtemps. Assez drôle, très marrante. Là, il est dans un registre beaucoup plus intimiste. Il y avait déjà quelques titres dans Le Prix du Bonheur qui étaient assez sensibles, assez intimistes. Bon, ici, sur ce disque-là, moi, je dois avouer qu'il me plaît moins que Le Prix du Bonheur parce qu'il est moins farfelu, il est moins drôle aussi, il est plus, c'est plus vraiment des chansons.
Il n'est pas mièvre quand même.
Si, par certains aspects, si. Enfin, c'est-à-dire, ça dépend comment on le prend, quoi.
Alors, René Lucier mièvre, ça, je suis hyper excité d'entendre ça.
Alors, ouais. Alors, il y a certains, il y a un côté premier degré, très avec assez peu de distanciation, enfin très des espèces de, mais que je trouve, enfin, je suis un peu à la lisière.
Ouais.
Sur mon jugement là-dessus.
On va te dire si c'est bien ou pas.
Par contre, donc là j'ai choisi le morceau le moins, je trouve le moins mièvre, si j'en pourrais pas ce terme-là, mais enfin c'est intéressant de le voir comme ça, qui s'appelle Cet air-là et qui est surtout magnifiquement arrangé, comme d'habitude, parce qu'il y a des morceaux avec des arrangements très minimalistes, mais grosso modo le disque du début à la fin, c'est musicalement c'est splendide. Toutes les guitares, toutes les compositions et les arrangements sont fourmis de détails magnifiques. Voilà, donc ça s'appelle Cet air-là et c'est extrait de son disque 100% mitaine, fait à la main et acheté en digital sur son Bandcamp, parce qu'il n'a pas pressé de disque, il les vend comme ça sur Internet. Et il n'y a pas de distributeur, pas de label. Voilà, Cet air-là.
Qui m'obsède et me hante, Chaque fois que tu le chantes pour moi, si tu m'apprends cet air-là, je saurai tout des silences qui enveloppent tes joies, tes souvenirs, tes désirs. Tout ce qui a grandi en toi jusqu'au goût de tes larmes, les jours où tu rends les armes, je saurai enfin d'où tu viens, qui tu es.
Hein, bah, c'est super, drôlement bien.
Bah ouais.
C'est bien.
Bah oui.
Ouais, 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 ouais. Je trouve ça super aussi. Mais,
mais... c'est juste cette introduction en fait. Mais avec ce guitare voix qui te.
Il faudrait. Non, c'est pas le guitare voix vraiment qui me gêne. C'est le rapport au. C'est le rapport au texte, je pense, qui me.
Oui, oui. Mais
ouais. Qui me trouble un peu. C'est-à-dire que tout le disque est sur ce ton-là en fait. Tu vois. Enfin, c'est-à-dire mm-hmm. que. Je sais pas comment dire. Il y a dans toute la musique qu'il a produite jusque-là, il y a une espèce de côté toujours hyper surprenant, toujours second degré, toujours avec plein ouais. de tu vois plein de... et là déjà dans le Prix du Bonheur on retrouvait il y avait quelques chansons comme ça, et là vraiment on a vraiment un disque qui est
il s'attendrit
qui est tout qui s'attendrit énormément ouais et qui ouais. et qui devient qui est vraiment en tout cas par rapport au texte seulement, parce que la musique c'est autre chose, mais
oui.
est très Voilà, très premier degré. Et, mais parce que j'ai rien contre les chansons d'amour. Oui.
Quel âge il a
Alors là, je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Il a l'air tout jeune. Et tu vois, il joue depuis les années 70, quoi.
Ouais.
Donc, je ne saurais pas. Il va bien avoir 50 ans, mais je pense 40-50.
Je suis hyper fan du passage avec le violon, le sifflement beau, hein. La voix, en fait, tout le thème là, qui est développé trois, en bas avec la voix et le sifflement plus le violon, ça fait un effet hyper bien.
Il y a tout le temps des trucs comme ça sonores, des trouvailles, ça fourmille. Hein,
on dirait presque un thérémine, le mélange du violon et du sifflement.
Voilà, donc écoutez-le. Voilà, toucher une âme s'appelle. C'est sorti il y a peu de temps.
Donc c'est sur Bandcamp pour l'écouter.
Oui, sur Bandcamp.
Oui, et éventuellement l'acheter.
Voilà, il y a un morceau en écoute et après il faut acheter le disque. Ouais. C'est à toi, Dédé.
C'est à moi. Moi je suis en train de découvrir sur le tard, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Un peu Talking Heads.
Génial, j'adore.
Moi aussi.
Et donc je vous ai amené.
Je crois qu'on n'a jamais écouté Talking Heads.
C'est vrai?
Si, au moins une fois. Si, au moins une fois. Dans une thématique, j'en avais apporté sur le cirque.
Et donc je vous ai amené une paire de morceaux de l'album Remain in Light.
Ah, formidable.
Qui est le quatrième album.
Avec Eno.
Qui évidemment. Produit par Brian Eno. Qui date de 1980. Enfin, peut-être que Eno y participe. Et 1980. Mmh. Et le premier morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qui a un côté un peu afrobeat. Je vous laisse le découvrir. Ça s'appelle Cross-Eyed and Painless. In the hospital, changing my shape.
Fantastique.
Ah ouais, c'est, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ça. Qu'est-ce que c'est bien.
Ouais.
Ouais.
C'est génial.
J'en ai un autre en stock.
Du même album ou d'autres albums?
Du même album, qui est très bien aussi.
Il y a aussi il y a Brian Eno, mais il y a aussi Adrian Belew sur ce disque.
D'accord.
C'est le premier disque de Talking Heads où il est dessus. Et je crois qu'il apporte énormément de trucs aussi. C'est vraiment un disque incroyable.
D'ailleurs, je trouve que la manière de chanter
David
Byrne se rapproche assez
de celle de
Je
suis bien d'accord avec ça.
Sur Discipline, par exemple, il y a des manières de poser la voix qui ressemblent un petit peu.
Mais vraiment, j'adore ce chanteur, David Byrne.
Ouais, moi aussi.
C'est vraiment unique. Et c'est marrant. Ah, je me souviens, moi, je les ai vus, j'étais môme, mais j'avais un copain dont le grand frère écoutait ce genre de truc à fond. Et donc, du coup, je suis tombé dans la marmite. Enfin, quand c'est sorti ce disque, je l'ai découvert quand il est sorti, quoi. Et je l'ai adoré et je les ai vus peu de temps après en concert. Et en fait, effectivement, il venait de prendre un virage afrobeat un peu. Et c'était au pavillon Baltar et il y avait des choristes africains et tout, c'était vraiment la fête mais moi j'avais été complètement déconcerté par ce virage, j'avais été un peu déstabilisé par ce et je regrette vachement parce que je suis sûr que c'était génial.
Alors Dédé, on revient à la musique américaine des années 20 ou...
Ouais c'est ça, mais sauf que là c'est 1978 mais Ouais, mais c'est donc Lou Harrison, qui est né, je crois, en 1935, un truc comme ça, qui a été un élève de Henry Cowell. Et il est né en 1917, pardon. Il est mort en 2003. Et donc, on va écouter son concerto pour orgue et orchestre de percussion. Et c'est vraiment, vraiment étonnant. Les sonorités là c'est magnifique. Alors il y a des percussions sans hauteur définie, je sais plus comment on dit. Et puis il y a aussi pas mal de sortes de cloches et des choses comme ça qui ont des hauteurs mais qui sont un peu pas ultra tempérées quoi. Et plus l'orgue et l'ensemble, alors, je trouve que ça fait une sonorité mais vraiment incroyable. Et donc j'ai choisi de vous faire écouter deux mouvements, parce que c'est en six mouvements ce concerto. Donc un premier mouvement qui est assez lent et qui avec des sonorités un peu de gamelan, qui évoque un peu les musiques d'Indonésie. Et un dernier mouvement qui est très très percussif, enfin avec l'orgue qui est un peu maltraité. C'est la première fois que j'entends un truc de Lou Harrison qui me convainc totalement. Donc
on enchaînera les deux ou...
Ouais, ouais, ouais.
Ça marche. Thank you.
Ouais, voilà, donc c'était Lou Harrison, concerto pour orgue et orchestre de percussion. Et je trouve que ouais, l'association de l'orgue et des percussions, c'est étonnant et c'est quand même assez fascinant, quoi. Mmh. Ouais.
Effectivement, il y a des sonorités qui se rapprochent un peu du gamelan au milieu du morceau, là.
Ouais, c'est très beau, là, tous ces trucs avec les... Il y a plein d'instruments à clavier, piano, glockenspiel, vibraphone, celesta, des tubes.
Il n'y a pas du tout d'instruments traditionnels, justement, parce que il me semble entendu des bols.
Je vois ce que tu veux dire. Oui, je me suis fait la même remarque. Et il semblerait que non, mais j'ai peut-être pas l'effectif complet. Et ça date de 73, pardon. Ouais, j'ai dit une connerie tout à l'heure. J'ai dit 78, mais 73. Ouais. 73.
Et c'est un alors Lou Harrison, c'est un compositeur de quel côté
Alors pareil, côte ouest, comme Henry Cowell, un Californien. C'est ce que je disais. Il semblerait qu'en Californie, il y ait eu vraiment un intérêt vers le Pacifique et des influences de plein de musiques asiatiques, notamment. Voilà.
Moi j'hésite. C'est à moi ou pas?
C'est à toi, tout à fait.
J'hésitais un peu à vous faire écouter un extrait du dernier disque de Shellac, mais je vais le faire quand même. D'abord parce que j'ai pas beaucoup passé Shellac et c'est quand même un groupe assez intéressant. Et ensuite parce que ce qui m'a décidé, c'est après avoir lu une interview de... Alors, Shellac, c'est un groupe de noise rock américain emmené par Steve Albini, qui est également producteur et surtout ingénieur du son, et qui est un type... je les avais vus en concert il y a quelques années, c'était la grande messe au Bataclan, et c'était un peu agaçant parce que la musique était bien, mais pas non plus renversante, et c'était... voilà, il y a plein de gens qui adulent Steve Albini, et c'est un peu agaçant.
C'est
mais
un gourou un peu.
Un petit peu, mais en fait, j'ai lu une interview de lui dans Noise Magazine il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé vraiment super intéressant, en fait. Il a une position radicale, surtout. Bon, c'est ça qu'on peut lui reprocher, c'est d'être un peu tout le temps hyper énervé, en gros. mais son point de vue est vraiment chouette, et il aborde plein de sujets... sur la musique qui reflète en même temps son travail d'ingénieur du son et son travail de musicien, et je trouve ça très intéressant parce que lui il est vraiment partisan de l'instant, de l'énergie, du son pas produit, tout à la prise de son, les prises, c'est l'énergie de la prise qui compte, pas la qualité de l'exécution, enfin des tas de choses qui sont qui ont une vraie il y a un vrai intérêt et une vraie valeur dans un certain contexte, évidemment, pas dans tous les contextes, mais je trouvais assez chouette, en fait. Et voilà, ils ont sorti Shellac, c'est un groupe, donc, d'après ce que lui dit, un groupe qui répète presque jamais, où ils écrivent les morceaux quand ils se voient trois fois par an. Donc, ça fait des disques avec une qualité sonore assez extraordinaire quand on les écoute dans de bonnes conditions, mais en même temps, des disques qui paraissent un peu être des espèces de chutes de répète mal fini, quoi. Donc voilà, c'est très tout ça, c'est très très, je suis pas complètement enthousiaste, mais je trouve qu'il y a quand même des choses bien et que ça vaut le coup de se pencher un peu sur la façon dont Steve Albini parle de la musique, parce que c'est vraiment intéressant, en fait. Voilà, donc le morceau s'appelle The People's Microphone et c'est tiré de l'album récent qui vient de sortir, qui s'appelle Dude Incredible. We'll be right back. Voilà.
Ben, c'est bien pour, ouais, les, c'est pas mal, pour des gens qui répètent trois fois par an.
C'est ouais, ouais, pas oui, si mal que ça. C'est pas si mal que ça, c'est clair. Donc les musiciens, c'est donc Steve Albini à la guitare, qui chante aussi sur la plupart des morceaux, mais pas sur celui-là.
Ouais.
Qui crie, qui c'est plutôt des interjections que vraiment du chant. Mais c'est assez chouette, j'aime bien la façon dont il chante. Et Bob Weston, je crois que c'est Bob, je sais plus, mais il me semble, qui fait qui est aussi ingénieur du son, qui fait 3 milliards de mastering par an. Et puis Todd Trainer, qui est le batteur. Et en fait, bon, ils ont tous les trois des carrières un peu à droite à gauche. Voilà. Mais c'est vrai que c'est là évidemment la réflexion de base, mais le son est quand même extraordinaire.
Ouais.
Ah oui, oui.
Extraordinaire.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment extraordinaire, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque c'est vraiment qu'une série de riffs.
Ah oui, oui.
C'est vraiment. T'as l'impression qu'il manque la partie c'est principale, ça. Quoi.
Exactement.
Mais bon, en même temps, c'est bien d'entendre.
Ah, mais il y a des disques de Shellac où il joue pendant 8 minutes un truc en croche avec deux notes.
Hein. Ouais. Mais par contre, ça le fait vraiment terrible, quoi. Ces riffs-là, le son et puis le.
Le son et puis les.
Et puis comment c'est foutu, quoi.
Énergie.
Et puis les changements de métrique et tout. Enfin,
c'est vraiment chouette.
Les coups de frein brutaux. Ouais.
Voilà, donc c'est le dernier disque de Shellac. Un petit
Talking Heads.
Un petit Talking Heads.
Voilà, c'est pas le dernier disque.
Les enfants,
on va se dire au revoir là.
Il est l'heure.
Ah, mais le temps passe trop vite.
Mettons un Talking Heads.
Ouais.
Et ben alors, on va mettre un Talking Heads pour finir.
Ah oui.
C'est Born Under Punches. Et c'est toujours le quatrième album de Talking Heads. Donc produit par Brian Eno en 1980.
Super.
Et adieu.
J'espère pas, ouais. Ouais. Ciao.
Ou ailleurs.
c'est tout, comme je le sais.